Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on termine la première partie du survol de l'Ancien Testament. Et puis, juste avant les fêtes, on va prendre une petite pause des cours bibliques pendant les fêtes. Ça va reprendre, je crois, au début de février. Mais avant de plonger dans notre leçon de cette semaine, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 135. On va prendre le temps de lire ce psaume. Dire un mot de prière et après tenter de finir cette première partie. On va peut-être aller un peu plus vite que d'habitude là, avec ce qui reste à nous, ce qui nous reste à voir. Mais avec le psaume 135, on veut commencer en préparant nos cœurs à recevoir la parole de Dieu, à louer notre Dieu. Psaume 135, louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, et elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Mais d'Israël, bénissez, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Alors, dans ce psaume, on voit un appel à louer Dieu. Et aussi, pour des raisons, parce que l'Éternel est grand, l'Éternel accomplit de grandes choses. Il est au ciel, il est souverain. On voit au verset 5 qu'il est grand, il est au-dessus de tous les dieux. Il n'y a aucun autre dieu comme l'Éternel. Et tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Toute chose qu'il accomplit, il le fait selon sa volonté. On voit à travers le psaume, le psalmiste se remémore un peu, se souvient de ce que Dieu a accompli, puis qu'on a vu aussi pendant notre cours, ce que Dieu a fait pour délivrer Israël, son peuple des Égyptiens, ce qu'il a fait aussi pour pouvoir le faire entrer dans la terre promise. Il a donné la terre promise en héritage à son peuple. Il a manifesté à travers ces prodiges-là qu'il était Dieu, qu'il est celui que même les nations doivent venir devant lui et adorer. Et il fait cet appel à la fin, que tous ceux qui appartiennent à la maison d'Israël puissent bénir l'Éternel. Évidemment, lorsqu'on considère le contexte de l'Ancien Testament, on sait que Dieu s'était choisi le peuple d'Israël pour pouvoir le louer, pour pouvoir le servir, pour pouvoir l'adorer. Mais lorsqu'on voit que tout ça pointait vers un moment plus grand, on peut se placer nous aussi dans ce psaume-là et dire, à travers la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu nous appelle à le louer pour les merveilles qu'il a accomplies envers nous. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On retourne dans les passages de l'Ancien Testament pour voir les prodiges que Dieu a accomplis envers son peuple, mais on veut aussi voir combien tout ça pointe vers un moment plus grand, vers le moment où Jésus-Christ est venu sur la terre. Puis on veut se rappeler de ça. On veut se célébrer le privilège qu'on a de pouvoir être en relation avec Dieu, de pouvoir être en paix avec Dieu. Et je crois que l'Évangile, ce que Jésus-Christ, qui il est pour nous et ce qu'il a accompli pour nous, c'est notre plus grande motivation pour notre louange, pour louer notre Dieu, la grâce qu'il a eue pour nous en Jésus-Christ. Et on veut se rappeler de ça ce matin, et on veut certainement le louer pour cela ce matin. Et à travers ça, préparer nos cœurs à le louer, à travers ça, préparer nos cœurs pour la semaine qui vient, pour les jours qui viennent, pour qu'on puisse continuer de l'adorer par nos vies. Alors, on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, c'est bon de s'arrêter, de prendre un temps pour ouvrir ta parole, parce que ta parole est vivante. À travers elle, Seigneur, tu nous parles. Ce sont tes paroles, ton message pour nous ce matin. Et on voit dans ce psaume, Seigneur, combien tu appelles ton peuple à te louer, à t'adorer. Parce que tu es grand, parce que tu en es digne. Mais aussi, Seigneur, parce que c'est pour cette raison-là que tu nous as créés. Tu nous as créés pour qu'on puisse t'offrir toutes nos louanges. Et notre cœur ne trouvera jamais pleinement de satisfaction ou de repos, sinon que lorsqu'on est dans ta présence à te louer et t'adorer. Seigneur, permets que ce matin, on puisse goûter à ta présence encore une fois. Permets qu'à travers cet enseignement de ta parole, Seigneur, tu puisses toucher nos cœurs, qu'on puisse se rappeler que tu es le Dieu majestueux, saint, qui règne sur nos vies, et qu'on puisse venir devant toi avec humilité, fléchir le genou devant toi, avec des cœurs sincères, désireux de t'obéir et de te donner toute la gloire. Seigneur, opère ton œuvre en nous par ton esprit ce matin. Viens faire une œuvre qui va nous aider, comme on l'a vu la semaine passée à travers la prédication, qu'on va nous aider à porter du fruit, le fruit de l'esprit dans nos vies, la joie qu'on peut vivre en toi. Et Seigneur, merci pour ce temps et bénis-le au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. La semaine dernière, on n'avait pas tout à fait terminé la leçon 11 sur les livres de 1 et 2 rois. Et puis ce matin, on a quand même, on veut terminer cette section-là, puis aussi voir la leçon 12 qui va couvrir les livres de Esdras, Néhémie et Esther. Donc c'est un survol hein, qu'on fait. Des fois, j'aime ça m'attarder sur des choses précieuses qu'on voit à travers ça, mais le but, c'est vraiment de donner un survol. Puis pour ceux qui trouvent que cette section historique-là va assez vite là, avec les livres 1, 2 Samuel, 1, 2 Rois, Chroniques, tout ça, on est allé assez rapidement. Juste vous rassurer que la session prochaine, lorsqu'on va voir les livres poétiques et prophétiques, on va revenir sur ces éléments-là, sur les éléments qui ont été vécus pendant cette période-là. Donc, on l'a vu un survol un peu plus historique, mais lorsqu'on va étudier les livres poétiques puis les prophètes, on va replonger dans des moments précis de cette histoire-là qui va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Israël du temps des rois et du temps des prophètes qui sont venus pour annoncer à Israël, ce que Dieu voulait pour eux, le plan de Dieu pour eux. Donc, juste pour vous rassurer, parce que vraiment, on y va rapidement, mais on va revenir sur ces périodes-là, les périodes des prophètes, surtout dans la période des rois. Donc, juste pour se replacer où on était rendu, on a vu jusqu'à maintenant que Dieu a délivré Israël du pays d'Égypte, il leur a donné le pays de Canaan, il les a établis pendant une période de 300 ans, il y a eu la période des juges, et ensuite de ça, le peuple a demandé à un roi, d'avoir un roi qui vient régner sur lui, et puis en faisant ça, bien, le peuple est en train de rejeter la souveraineté de Dieu, il dit, on ne veut pas avoir, dans un sens que le peuple est en train de dire, on ne veut pas avoir Dieu qui règne sur nous, on veut avoir un roi comme les autres nations. Et à travers ça, Dieu va quand même répondre à la requête du peuple. Il va donner des rois, il va donner Saül comme roi. Et la semaine dernière, on a vu un peu une partie du règne de David et de Salomon. Puis on a mentionné que cette période-là, d'environ le 1000 avant Jésus, 1000 à 900 avant Jésus, on est dans la période de l'apogée, de la période glorieuse de l'histoire d'Israël. Mais avec le règne de Salomon, malgré le fait que Dieu lui avait donné toute la sagesse, une sagesse tellement grande, des richesses innombrables. Dieu l'avait béni grandement. Ce n'était pas un homme parfait. Puis ce n'était pas un roi parfait. Puis vers la fin de sa vie, on a vu que son cœur a été entraîné dans l'idolâtrie, entre autres parce qu'il s'est tourné vers des femmes étrangères, s'est allié avec des pays étrangers, a marié des épouses étrangères qui ont détourné leur cœur vers des idoles. Et puis à cause de ça, Dieu a jugé Salomon. Et il a annoncé quelque chose, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Il a annoncé qu'après lui, dans la génération qui allait suivre, Dieu allait diviser le royaume d'Israël. Et Israël, qui était un seul peuple jusqu'à ce moment-là, va être divisé en deux royaumes. Et on était rendu à 1 Roi, chapitre 12, au moment où le fils de Salomon, qui s'appelle Roboam, va prendre devient le roi sur Israël. On voit que, contrairement à Salomon, lorsqu'on lit l'histoire de Roboam dans 1 Roi 12, on voit que c'était un roi qui était méchant, un roi qui était très dur. C'est lui qui a régné à la place de son père. Et puis les enfants d'Israël vont devant lui pour demander une certaine faveur, pour qu'il soit traité moins durement. Même à certains moments, Salomon, même lui-même, avait traité durement. Il demande à Roboam, est-ce que tu peux nous traiter un petit peu moins durement que ton père? Et puis, après avoir consulté des anciens puis des gens dans le peuple, il n'a pas écouté le peuple, mais il a plutôt décidé d'augmenter la dureté. Et puis, à travers cette dureté-là qu'il impose sur Israël, et il va dire... au verset 14, il dit « Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Donc, il augmente. Plutôt, les conseillers autour de lui disent « Si tu leur laisses trop de lousse au peuple, tu vas avoir de la misère avec eux autres. Fait que t'es mieux d'augmenter. Comme ça, tu vas être certain de pouvoir dominer sur eux. » Mais pas dominer de la bonne façon. Dominer d'une façon humaine. Teinté par le péché, évidemment. Et puis, c'est ce qu'il décide de faire. Mais ça provoque une révolte. Ça va provoquer la révolte de Jéroboam d'Israël dans 1 Roi 12, à partir du verset 16 jusqu'à 20. On voit la révolte de Jéroboam. Et ce que ça va causer, c'est la division du royaume. Cette révolte-là va faire en sorte qu'une partie d'Israël, qu'on va appeler Israël ou le royaume du Nord à partir de ce moment-là, va tomber sous le règne de Jéroboam. Et puis Roboam va garder seulement une partie, Roboam, le fils de Salomon, va seulement garder une partie d'Israël qui vont être les tribus de Juda et de Benjamin. Et puis les 10 autres tribus vont devenir le royaume du Nord. Donc ce qu'on appelle le royaume du Nord ou... vous le voyez, là, de plusieurs expressions dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle du royaume du Nord, dans notre langage un peu plus théologique, on parle de les 10 tribus d'Israël. On va parler aussi d'Israël. Lorsqu'on fait une distinction entre Israël et Juda dans l'Ancien Testament, Israël, c'est le royaume du Nord. Juda, c'est le royaume du Sud. On va utiliser aussi le terme Éphraïm, qui était la plus grande tribu du royaume du Nord, pour se référer à Israël, le royaume du Nord. Donc, lorsqu'on lit dans les prophètes, Éphraïm a fait ci, on voit Juda a fait ça, mais Éphraïm correspond au royaume du Nord. Et puis, on va parler aussi des fois de la capitale de ce royaume-là, qui était Samarie. Et puis, dans le reste de l'Ancien Testament, lorsqu'on fait référence à Israël, Éphraïm ou Samarie, ça fait référence au royaume du Nord. Dans le récit aussi, bien évidemment, il y a le royaume du Sud. C'est la tribu de Juda et de Benjamin. Et dans l'Ancien Testament, on réfère au royaume du Sud avec avec Juda, en référant à Juda. Juda, ça inclut Benjamin aussi. Et puis, Jérusalem, évidemment, la capitale de Jérusalem, d'Israël, est demeurée dans Juda, est demeurée dans le royaume du Sud. Et puis, on fait référence aussi à Jérusalem, qui est la capitale du royaume du Sud. Et puis, on va voir dans la suite de 1 et 2 rois, et dans les chroniques aussi, qui revient sur un peu cette histoire-là qui se passe dans 1 et 2 rois, que L'histoire se chevauche. On voit qu'est-ce qui se passe dans le royaume du Nord, puis en même temps dans le royaume du Sud. Et puis, dans le royaume du Nord, on voit que le cœur des rois, de tous les rois qui ont régné dans le royaume du Nord, ont abandonné l'Éternel pour se tourner vers des idoles, vers des dieux étrangers. Il va y avoir 4 dynasties. À cause de ça, il va y avoir 4 dynasties dans le royaume du Nord. Dieu va arracher le trône à une famille pour le donner à une autre famille à cause de l'idolâtrie et de toutes sortes de péchés qui vont se passer dans le royaume du Nord. Dieu va ôter le trône de certaines familles pour le donner à une autre descendance. Jéroboam, qu'on appelle dans l'histoire Jéroboam Ier, a été le premier roi du Nord. Et on voit que son cœur n'était pas tourné vers Dieu et que de la manière dont il gérait le pays, on voit clairement que son cœur n'était pas attaché à Dieu. On voit dans 1 Roi 14, les versets 14 à 16, déjà que le trône, Dieu va enlever la royauté à Jéroboam pour le donner à une autre à cause de son péché. On voit dans plusieurs autres endroits, entre autres dans le chapitre 15, comment il régnait. Il régnait avec un cœur qui n'était pas tourné vers Dieu. 1 Roi 15, verset 11. Dans le fond, on voit que dans la suite de des choses, ses enfants l'ont suivi et son règne a eu des conséquences sur les générations qui ont suivi. Donc, ce qu'on peut dire, dans le fond, c'est que le royaume du Nord n'a pas marché avec Dieu du tout. Il était loin du temple, ce n'était pas à cet endroit-là qu'était le temple. Le temple était à Jérusalem, puis en étant divisé, il n'y avait plus accès à l'adoration. Mais on va voir aussi que le royaume du Sud n'a pas été mieux. Dans le royaume du Sud, si dans le Nord, il n'y avait jamais eu un roi qui a marché avec le Seigneur, dans le royaume du Sud, il y a eu certains rois, mais quelques-uns. Hein, on peut en compter très peu. La plupart étaient des mauvais rois. Mais malgré tout, Dieu avait fait une promesse à David. Il avait dit, « J'enlèverai pas, ça va toujours être ta famille. Je ne vais pas enlever le trône de toi. Tu vas toujours régner. Tu vas régner éternellement sur le trône d'Israël. » Et puis, en quelque sorte, Dieu a tenu cette promesse-là. Malgré la méchanceté de Roboam et de plusieurs de ses descendants, on voit que dans le sud, il y a eu des bons rois aussi, dont le cœur était tourné vers Dieu. On voit, entre autres, les rois Ézéchias et Josias, qui ont été des rois qui ont retourné à la loi de l'Éternel, qui ont redécouvert les Écritures du Pentateuque, la loi, ont ramené le peuple, tourné le cœur du peuple vers Dieu. Puis, à travers ça, Dieu a conservé le trône de David. Mais, comme je l'ai mentionné, les deux royaumes n'ont pas marché pleinement avec un cœur entier à l'Éternel. Et qu'est-ce que ça, où ça, ça l'amène? Ça l'amène le royaume du Nord et le royaume du Sud aussi, mais à deux moments différents, à recevoir une conséquence pour le péché puis l'idolâtrie qu'ils ont vécue et à être exterminés, détruits, amenés en captivité. Et donc, le royaume du Nord va être amené en captivité en Assyrie, parce qu'à ce moment-là, c'était l'Assyrie qui était la grande puissance. Et un peu plus tard, environ 130 ans plus tard, c'est le royaume du Sud qui est amené aussi en captivité, mais à Babylone. Parce que Babylone, entre ces deux moments-là, Babylone devient la puissance mondiale. C'est l'empire babylonien qui va être l'empire principal, dans le fond, celui qui va régner sur ce territoire-là du Proche-Orient. Et donc, on voit que les deux royaumes, Israël, la gloire qu'ils ont connue du temps de David, à cause du cœur qui s'est détourné du Seigneur, Dieu va châtier, Dieu va détruire, jusqu'au point de détruire Jérusalem, détruire Jérusalem. Et donc, on n'aura pas le temps d'aller dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé dans le reste de 1 et 2 rois, de qu'est-ce qui est arrivé, mais simplement dire qu'à travers ça, Dieu n'a pas entièrement abandonné son peuple pendant que le cœur du peuple était détourné de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes. On connaît l'histoire du prophète Élie, qui est venu pour annoncer dans le royaume du Nord et puis intervenir auprès du roi Akab pour que se détourner de l'adoration des idoles de Baal, des Astartés, pour revenir à l'Éternel. Dieu envoie des prophètes, Dieu fait grâce à son peuple. Il ne les a pas laissés complètement dans l'ignorance. Il envoyait des prophètes pour les rappeler à lui. Mais le cœur du peuple a toujours été toujours plus en empirant puis en se détournant de l'Éternel, même si quelques individus à travers cette histoire-là ont continué de marcher avec Dieu. Donc, juste pour résumer cette période-là, à partir du moment où Dieu punit Salomon, déchire le royaume à peu près aux alentours de 930 avant Jésus, pendant 200 ans, le royaume du Nord ne marchera pas avec le Seigneur. Et puis, ça arrive pour donner des dates, là. La déportation du royaume du Nord en Assyrie arrive en 722. Juste pour situer un peu certains éléments du reste de l'Ancien Testament, l'Assyrie, la capitale de l'Assyrie, c'était Ninive. Et lorsqu'on connaît Ninive à cause de l'histoire de Jonas, Jonas s'est appelé à aller à Ninive puis à annoncer la repentance pour que Dieu puisse en sauver quelques-uns, même parmi les Assyriens. Puis Jonas, lui, il ne veut pas y aller. Non, ce peuple-là qui est venu nous envahir, qui nous a amenés, qui nous a déportés, qui nous a amenés en captivité, il n'est pas question que voilà annoncer la repentance puis que Dieu va bénir ce peuple-là. Et ça donne un peu une idée pourquoi Jonas réagit de cette façon-là. Et c'est entre autres à cause du fait que la Syrie avait été dure envers Israël puis les avait amenés en captivité. Et ça arrive en 722 avant Jésus. Et puis, le royaume du Sud, lui, va continuer de vivre pendant 130 ans. Et puis, la déportation du royaume du Sud à Babylone, ça arrive en différentes vagues, mais la destruction complète de Jérusalem arrive environ 586 avant Jésus. Donc, ça place cette période-là des rois. Et puis, tout ça pour dire, en 586, Israël a été déporté, le royaume de Juda, la même chose. Israël est détruit, le temple est détruit, tout est dévasté. Et les gens, le peuple, certains sont restés là. Et évidemment, il y en a certains qui sont restés dans le pays. Mais tout ça pour dire que Dieu a châtié son peuple en raison de sa désobéissance, en raison de l'idolâtrie. Et là, on arrive maintenant, après une certaine période de temps, on voit dans le prophète Daniel un peu l'histoire de cette période-là aussi. Daniel était à Babylone lorsque Dieu l'utilise comme prophète. Et puis même Daniel va annoncer ce qui va arriver dans la suite. Mais lorsqu'on arrive dans Esdras, nous on est dans les livres historiques, on arrive dans Esdras, on arrive pendant cette période-là d'environ 70 ans. 70 ans, Dieu avait annoncé par le prophète Jérémie que cette déportation-là à Babylone, cette captivité-là, allait durer 70 ans. Mais qu'après 70 ans, il allait susciter un roi qui allait ramener Israël à Jérusalem. Et on arrive dans Esdras et Néhémie, et on est après ces 70 ans-là. Et on va voir ce que Dieu va faire. Dieu va faire grâce à Israël malgré la désobéissance qu'il y a eu, Dieu a puni, mais Dieu veut faire grâce encore à Israël. Il les ramène, entre autres, à Jérusalem. Et puis, à travers Esdras, Néhémie, on voit la reconstruction du temple et la reconstruction aussi des murailles de Jérusalem. Et on va aller un peu plus en détail dans ce livre-là. On commence, avant d'aller vers Esther, évidemment, on va aller dans Esdras, Néhémie. Lorsque je dis Esdras, Néhémie, c'est parce que Esdras et Néhémie, dans nos Bibles, c'est deux livres différents. Mais en réalité, c'est un seul livre. Esdras, le livre de Esdras et Néhémie dans la Bible hébraïque, c'est un seul livre. Et puis, lorsqu'on regarde l'histoire de Esdras et Néhémie, on voit que c'est une histoire qui va ensemble, qui parle du retour de Juda à Jérusalem, du retour des Juifs à Jérusalem, et puis la restauration du culte à Dieu qui est rétabli. Donc, le thème de Esdras, Néhémie, si on veut comprendre le livre dans son ensemble, c'est que Dieu va rétablir l'alliance avec son peuple sur les fondements du passé. en restaurant le temple, l'adoration et la ville de Jérusalem. Comme l'Éternel protège le reste de son peuple des peuples ennemis, il les délivre aussi de la corruption occasionnée par des méchants au milieu du peuple. Donc, ça résume un peu le livre, et puis je veux juste mentionner certains détails qui vont vous aider à mieux comprendre le thème. Donc, Dieu va rétablir l'alliance avec son peuple sur les fondements du passé. Dieu, en ramenant les Juifs à Jérusalem pour la reconstruction, Dieu n'est pas en train d'établir une nouvelle alliance. Donc, il est en train de, sur la base de l'alliance qui a été faite avec Moïse et avec David, de ramener son peuple et de restaurer l'adoration dans la ville de Jérusalem. L'adoration va être restaurée, entre autres, parce que le temple va être reconstruit. Et puis, à travers la reconstruction du temple, on voit que la reconstruction du temple dans Esdras, ce n'est pas facile. Les ennemis qui les entourent viennent les attaquer et viennent interrompre la construction du temple. Mais à la fin, en bout de ligne, Dieu délivre Israël de ses ennemis et puis ils vont pouvoir reconstruire le temple. Et c'est le temple qui existait, c'est un deuxième temple. Et c'est le temple qui était au moment où Jésus est venu sur la terre, à l'époque de Jésus, c'est ce temple, ce deuxième temple-là qui était là. Et donc, Dieu restaure son peuple, le protège de ses ennemis, mais le cœur du peuple n'a pas complètement changé. Le cœur du peuple est toujours pécheur, marqué par cette nature pécheresse. Puis il va y avoir le péché qui va se réinstaller au milieu du peuple. Et Dieu va quand même amener une délivrance de ça en amenant un jugement, puis aussi en ramenant la sainteté au milieu de son peuple. Donc, c'est ce qu'on voit dans Esdras et Néhémie, entre autres avec Néhémie, toute cette question-là de péché, et que Dieu va utiliser Néhémie pour restaurer, et Esdras aussi, pour restaurer la sainteté au milieu de son peuple. Donc, on arrive à ce moment-là. Donc, selon les données, si on veut parler de la date de rédaction du livre, le livre aurait été écrit après le retour d'Esdras, évidemment, de la captivité. Ce retour-là se passe environ en 457 avant Jésus et quelque temps après le retour de Néhémie en 445. Donc, la plupart des commentateurs vont s'entendre pour dire que le livre d'Esdras-Néhémie a été écrit entre 440 et 400 avant Jésus. Donc, on est vraiment sur la fin de l'histoire, juste avant ce qu'on appelle la période de silence entre la fin de l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. L'histoire d'Esdras-Néhémie marque vraiment la fin de cette période historique-là qui nous est révélée dans l'Ancien Testament. On voit que Esdras, on peut conclure avec comment le livre est écrit, qu'Esdras aurait été l'auteur final, puis il aurait été inclus à la fin de son livre, les mémoires de Néhémie. Donc, la partie de Néhémie, c'est probablement Néhémie qui l'a écrit. Et puis, Esdras a écrit cette partie-là, mais à la fin, Esdras va inclure ce livre-là pour en faire un seul, le livre d'Esdras-Néhémie, qui sont deux livres dans notre Bible, mais un seul en réalité. La structure du livre, juste pour bien situer les événements qui sont décrits, premièrement, il y a un premier retour de l'exil, dans Esdras 1, chapitres 1 et 2. Donc, c'est ce premier retour-là qui se passe. Et puis, à partir du premier retour, ensuite de ça, il y a la restauration de l'adoration, donc le second temple qui va être construit entre Esdras 3 et entre le chapitre 3 et le chapitre 6. Et le retour de l'exil vient en vague. Okay? Et puis, il y a un second retour de l'exil qui arrive en Esdras 7 jusqu'au chapitre 10. Esdras arrive pendant ce second retour-là. Et puis, ensuite de ça, il va avoir la restauration des murs de Jérusalem racontée dans Néhémie, Néhémie 1 à 7. Et puis, les réformes, la réforme d'Esdras et Néhémie, réformer le peuple, ramener le peuple à Dieu dans Néhémie 8 à 13. Donc, c'est vraiment l'époque de la restauration de l'adoration, la reconstruction des murs de Jérusalem. Donc, on voit dans les premiers chapitres d'Esdras que Dieu ramène l'adoration. Ramène l'adoration au milieu de son peuple. On peut tourner, pour ceux qui ont, si vous avez vos Bibles avec vous, dans Esdras au chapitre 1, qu'on va lire dans les versets 1 à 4 qu'il y a un roi, Cyrus, qui va recevoir la parole de l'Éternel, puis qui va prendre la décision. Le roi Cyrus, on est rendu, juste pour le situer, à l'époque des Mèdes et des Perses. L'Empire babylonien est tombé. Et puis, le roi Cyrus, qui est le roi des Mèdes et des Perses, qui est l'empire qui domine jusqu'à la période des Grecs, donc, est un roi des Mèdes et des Perses. Et les Mèdes et les Perses ne fonctionnaient pas de la même façon que les Babyloniens. Si les Babyloniens ont amené en captivité ceux qui avaient conquis pour comme les sortir de leur maison, les sortir de leur où ce qu'ils étaient ancrés, bien, les Mèdes et les Perses étaient plus cléments et permettaient au peuple de revenir dans là où ils habitaient. Et donc, on va voir en lisant les versets 1 à 4 que Dieu est à l'œuvre à travers ça. Même Dieu est à l'œuvre à travers le roi Cyrus. Puis lorsqu'on lit, entre autres, les prophéties d'Ésaïe, Dieu avait annoncé d'avance qu'un certain Cyrus allait venir pour restaurer Jérusalem. On lit chapitre 1, verset 1. « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » Alors, on a un roi qui ne fait pas partie du tout du peuple de Dieu, le roi des Mèdes et des Perses, que Dieu va réveiller son esprit. On voit vraiment que Dieu est à l'œuvre dans ça. Il réveille l'esprit de Cyrus. Puis il dit, je vais envoyer le peuple de Dieu rebâtir le temple qui est à Jérusalem. Puis en plus de ça, ce qui va arriver, c'est que les gens des alentours, les gens qui vivent autour d'eux, où ils vivent présentement, à Babylone, puis ils sont dispersés un peu partout, ils vont leur donner de l'argent, ils vont leur donner des offrandes, ils vont leur donner des biens pour qu'ils puissent aller construire la maison de l'Éternel. Et donc, c'est vraiment une période, d'un réveil que Dieu provoque dans le cœur de Cyrus et qui fait en sorte qu'à travers ça, l'adoration à Jérusalem va être restaurée. Donc, Dieu utilise ce roi-là pour ramener Israël. Et puis, le roi Cyrus va publier un édit, puis ça va permettre à environ 50 000 Juifs de retourner à Jérusalem. Même si Jérusalem n'avait pas son indépendance, était toujours dominée par les Mèdes et les Perses, Dieu fait grâce. Et Dieu va restaurer le culte et Dieu permet que le peuple puisse le louer, l'adorer au milieu d'un peuple étranger même. Et ça fait un petit peu penser à notre période dans laquelle on vit. La période dans laquelle on vit, ce n'est pas l'époque d'Israël où Dieu régnait sur Israël, une époque de théocratie qu'on pourrait dire. On est, comme l'apôtre Pierre dit, on est des voyageurs, des étrangers sur la terre. Et on est réunis ensemble comme le peuple de Dieu, mais ceux avec qui on vit connaissent la majorité même ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas l'Évangile. Mais Dieu permet dans sa grâce qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse l'adorer, apprendre de sa parole. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, puis ce n'est pas comme ça dans tous les pays. On a le privilège de vivre dans un pays où Dieu nous donne cette liberté-là. Mais il y en a qui doivent se cacher, qui craignent même politiquement, même de mourir, puis de plus en plus dans le monde. dans certains pays, on pense des pays entre autres en Chine ou ailleurs, on sait qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui n'ont pas le droit de pouvoir se réunir puis d'adorer le Seigneur. Alors, c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Puis, il faut prendre le temps de réaliser ça. Comme Dieu a fait grâce à Israël de pouvoir, même au milieu d'un empire, l'empire des Mèdes et des Perses, de pouvoir amener l'adoration, de pouvoir adorer Dieu, on a ce privilège-là. Puis c'est une grâce qui vient de Dieu. Évidemment, de s'afficher comme chrétien, puis de dire « je suis un disciple de Jésus-Christ », puis de prêcher l'Évangile aujourd'hui dans notre société, c'est pas la chose la plus facile, puis c'est pas toujours nécessairement non plus la chose la mieux vue. Puis même des fois, par les paroles, par la manière dont les gens vont réagir à notre foi, on peut se sentir persécuté, mais c'est pas la persécution que d'autres ont vécue dans l'histoire de l'Église. Et on peut rendre grâce à Dieu pour ça. Dieu nous a fait grâce pendant ce temps-là. On sait que même de ceux qui sont venus comme missionnaires au Québec dans les années 50-60, certains ont fait de la prison à cause qu'ils prêchaient l'Évangile. Puis à l'époque où c'était l'Église catholique qui décidait de quasiment tout, là, l'Église et l'État étaient tellement unis au Québec. Donc, on a cette période-là, on vit dans cette période-là, puis on veut rendre grâce à Dieu pour ça. Mais Dieu va permettre ça. Il va permettre pour Israël, il va permettre qu'ils reviennent, il va permettre la restauration du temple dans le chapitre 3. On voit ça, entre autres, les versets 8 à 13. On voit que la construction du temple est commencée et puis le peuple célèbre à Jérusalem la construction du temple qui commence. Et c'est la joie à ce moment-là, mais ce n'est pas la plus grande joie, parce qu'il y en a qui ont connu l'époque avant. Il y en a qui ont connu dans le temps là, que c'était le temple de David, dans le temps que c'était le temple que David avait construit. Puis il y en a il y en a certains qui célèbrent Dieu parce que hey, on peut reconstruire le temple. Il y en a d'autres qui pleurent parce que hey, man, ça a tout été détruit. C'est plus comme avant. Hey, le peuple est un peu divisé, mais ce qu'on voit, c'est que Dieu fait grâce et puis Dieu va envoyer Esdras pour la construction du temple. On voit que pendant un certain temps, à cause des hostilités, la construction du temple est interrompue pendant 20 ans. On voit ça au chapitre 4, verset 24. Entre autres, le roi va empêcher de construire, puis l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, verset 24, il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Donc, après Cyrus, il y a un autre roi, il fait interrompre la construction du temple, et puis plus tard, 20 ans plus tard, le temple est à moitié construit, mais Esdras vient dans son retour de l'exil. Et puis, il va avoir à cœur de construire la maison de l'Éternel, mais aussi Dieu va mettre à cœur à Darius, le nouveau roi, que les travaux se poursuivent. Qu'est-ce qui arrive? Dieu, encore une fois, dans la souveraineté de Dieu, Dieu va prendre Darius, qui a de la difficulté à dormir un soir, puis il dit, je vais aller lire les archives des rois des Mèdes et des Perses. Puis là, il s'en va lire les archives du temps du roi Cyrus. Puis il voit que Cyrus avait commandé la construction du temple. Puis hey, lui, il voit, il dit, mais qu'est-ce qui fait que le temple n'est pas construit? Et puis il va dire, hey, non, ça ne marche pas cette affaire-là. Le temple n'est pas construit. Cyrus avait fait ce décret-là. Bien, je le fais à nouveau. Et puis Darius va renouveler ce décret-là. Et puis à travers Esdras, Dieu va permettre que la reconstruction du temple à Jérusalem. On doit avancer un petit peu, le temps avance. On doit aller un petit peu plus rapidement avec le livre de Néhémie. Néhémie, lui, dans cette période-là, lui, on a vu dans Esdras la reconstruction du temple. Lui, Néhémie, s'occupe plus de la reconstruction des murs de Jérusalem. Néhémie va revenir à Jérusalem. On voit ça dans Néhémie 1, les versets 2 à 20. Néhémie va avoir à cœur dans le chapitre 1 de Néhémie, de se présenter devant le roi et de demander qu'il puisse retourner pour que les murs de Jérusalem puissent être construits. Et puis, à travers le livre de Néhémie, on voit la reconstruction, le retour d'Israël, le retour de, les Juifs à Juda, à Jérusalem, et reconstruire les murs. Il y a un point important, je pense, dans Néhémie, puis c'est le chapitre 8 de Néhémie. C'est un chapitre important parce qu'une fois que les travaux ont été terminés, il y a eu un moment où il y a eu une réforme. Et cette réforme-là, au sein du peuple d'Israël, est arrivée à cause d'une raison en particulier. Et c'est parce que Esdras et Néhémie avaient un cœur attaché au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retrouvé le livre de la loi et ont commencé à l'enseigner au peuple. Et puis, on voit dans Néhémie, chapitre 8, le verset 8, qu'est-ce que Néhémie et Esdras ont fait? En fait, Esdras, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et là, on a ici l'ancêtre, si je peux dire, de la prédication. On voit ici dans Néhémie, qu'est-ce que Esdras et Néhémie ont fait? Esdras a ouvert les Écritures. Esdras, entre autres, était un scribe, a ouvert les Écritures, a lu la loi et l'a expliqué au peuple. Et puis, on voit qu'à travers ça, le peuple est dans la joie. Le peuple se réjouit de ça. Et puis, le peuple se réjouit parce qu'ils comprennent les paroles qu'on leur enseigne. Et puis, c'est ce qu'on cherche à faire. Puis, je pense que dans la suite des temps, dans l'histoire d'Israël, puis même avec l'Église, avec Jésus qui annonce les Écritures, qui parle de ce qui avait été annoncé avant, puis qui est en train de s'accomplir en lui, puis ensuite, à travers le travail des apôtres, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rappelle sa parole. Dieu enseigne sa parole au peuple. La parole est lue, la parole est enseignée, elle est expliquée, et qu'est-ce que ça a pour effet? Ça a pour effet de réjouir le cœur du peuple parce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on leur enseigne. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans l'histoire de l'Église, même s'il y a eu des périodes un peu moins soutenues dans ce sens-là, il y a souvent, puis Dieu a permis qu'il y ait des pasteurs qui soient là, ouvrent les Écritures, lisent les Écritures et enseignent, et l'expliquent pour que les gens puissent comprendre. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est le message que Dieu a pour son peuple. Et lorsqu'on est réunis le dimanche matin, puis une des choses qu'on essaie de faire comme pasteur ici, c'est de prendre le temps d'ouvrir les Écritures et de les exposer, les expliquer, parce que c'est à travers le message de la parole que Dieu parle à son peuple. Et on a hérité ça de la Réforme, entre autres, des protestants, de cette pratique-là d'exposer les Écritures, parce que on veut que les gens comprennent le message de Dieu. Je suis ici ce matin, c'est pas pour partager ce que j'ai à vous dire. Je suis ici ce matin pour ouvrir les Écritures, pour essayer de les expliquer, pour que vous puissiez comprendre pour vous-même, puis comprendre ce que Dieu veut vous dire. Et c'est ce qu'on fait à l'Église, Yannick, on le fait d'une série à l'autre. Vous voyez, on prend un livre, on expose le livre, on a exposé l'Épître aux Galates dernièrement. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut ouvrir les Écritures, les expliquer pour que le peuple de Dieu puisse être réjoui par la parole de Dieu qui est enseignée. Et ça, je pense que c'est un des rôles les plus importants de l'Église, c'est que l'Église puisse enseigner la parole, continuer de communiquer l'Évangile, essayer que le peuple de Dieu puisse grandir dans la connaissance de Dieu à travers la prédication. Et on voit que cette prédication-là d'Esdras a eu un bon effet sur le peuple de Dieu. Et c'est parce que la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu nourrit le peuple de Dieu, et puis le peuple peut se réjouir de ça et grandir dans la connaissance de Dieu. Et donc, à travers Esdras, Néhémie, on voit l'histoire d'une restauration qui ne sera pas complète. Ce n'est pas une restauration complète parce que le temple qui est restauré à Jérusalem, il va être détruit encore plus tard. En 70 après Jésus, l'Empire romain avec Néron vont détruire Jérusalem, vont détruire le temple à nouveau. Et le temple tel qu'on le voit, qu'on le concevait physiquement dans l'Ancien Testament, est disparu. Mais pourtant, Dieu annonce dans les prophètes qu'il va y avoir un temple, l'adoration va être restaurée, que, il va même dire dans Ésaïe que ma maison sera une maison de prière pour les nations. Un moment où, ce ne sera pas juste Israël qui va venir adorer à Jérusalem, mais dans toutes les nations, on va venir pour adorer Dieu. Mais quand est-ce que ça se passe, ça? Il n'y a plus de temple. C'est où? Mais on l'a vu un peu dernièrement. Le temple, c'est là où Dieu habite en esprit. Le temple, c'est dans le cœur des croyants, dans l'Église qui est rassemblée. Et ce temple-là va être pleinement restauré dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas de temple. Parce qu'on va être dans la présence de Dieu. Et Dieu lui-même est le temple dans la nouvelle Jérusalem. Et lorsqu'on voit des prophéties annoncées dans Ésaïe, où il y a une restauration complète de l'adoration, bien, je pense que là, ça a son accomplissement complet dans la nouvelle Jérusalem, à la fin des temps, où toutes les nations, des gens de toute langue, toute tribu, toute nation vont être rassemblés devant le trône de l'agneau puis l'adorer pour l'éternité. Mais déjà, Dieu permet d'habiter, il habite parmi nous par son esprit, on est rassemblés, on n'est pas juste des Juifs, on est des gens de toutes les nations, puis je bénis Dieu pour toutes les nations qu'on a dans l'Église, de partout sur la terre, assemblés ensemble en Jésus-Christ pour louer notre Dieu. Rapidement, un bref survol du livre d'Esther, parce qu'on est vraiment, on veut terminer aujourd'hui. Le livre d'Esther, évidemment, c'est un livre qui semble un peu étrange. Lorsqu'on le lit et qu'on prend le temps de passer à travers Esther, il y a quelque chose d'étrange dans Esther. Pourquoi? Parce que nulle part dans le livre, on mentionne le nom de l'Éternel ou le nom de Dieu. Et puis, à travers l'histoire de l'Église, on s'est posé la question, est-ce que Esther, c'est vraiment un livre inspiré qui doit faire partie du canon des Écritures? Il était là dans le canon de la Bible hébraïque. Il est présent. Mais c'est un livre qu'on ne voit pas le nom de Dieu. On voit que le Nouveau Testament ne fait pas d'allusion non plus au livre d'Esther. Et donc, on s'est posé des questions. Par contre, on voit quand même des pratiques du peuple de Dieu à cette époque-là, à l'époque de la déportation. Au chapitre 4, on voit qu'il y a un jeûne qui est décrété pour que Dieu intervienne en faveur de son peuple. On ne dit pas pour que Dieu intervienne, mais on décrète juste simplement un jeûne. On comprend avec ça qu'implicitement, ce que ça dit, c'est bien, le peuple va jeûner puis prier Dieu pour que Dieu puisse intervenir en faveur de son peuple. Même si on ne voit pas des éléments qui nous permettraient de dire clairement, comme d'autres livres, « Hey, c'est clair, c'est inspiré, la parole de Dieu, on voit Dieu, le nom de Dieu mentionné », il y a plusieurs éléments qui font en sorte que le texte du livre d'Esther est riche et adresse des problèmes aussi, même pour nos propres vies. Et donc, même si on l'a questionné dans l'histoire de l'Église, l'Église a réellement vu à travers ça un thème vraiment central, que même si Dieu n'est pas mentionné d'une façon claire, on voit quand même que Dieu est présent avec son peuple au milieu de cette déportation-là, et que Dieu intervient, que la souveraineté de Dieu est évidente dans tout le livre. Et donc, on a considéré que c'était... je pense que c'est par le Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, dans l'histoire de l'Église, on a reconnu ce livre-là comme faisant partie de notre canon. Et il y a plusieurs choses qu'on peut en retirer aussi. Donc, c'était une simple mention, parce que des fois, les gens se posent des questions sur ce livre-là. Et je comprends, il y en a eu des questions qui se sont posées. Mais par le Saint-Esprit, Dieu a dirigé pour qu'on puisse avoir ce livre-là. Juste rapidement, le thème du livre d'Esther, c'est « Même si l'Éternel n'est pas un Dieu visible, le peuple de Dieu peut avoir confiance en lui, car nous pouvons voir qu'il est à l'œuvre par sa souveraineté sur toutes les circonstances de notre vie. » Ça, c'est quelque chose d'évident dans Esther, c'est des circonstances, des tournures d'événements dans des situations qui semblent impossibles. Dieu agit. Ça ne se peut pas que Dieu n'ait pas agi. Ça ne se peut pas que ce ne soit pas Dieu qui est derrière ça. On le voit, c'est évident. Et on voit que Dieu, à travers le livre d'Esther, va préserver son peuple et que Dieu est souverain. Le peuple de Dieu peut avoir confiance dans la souveraineté de Dieu en n'importe quelle circonstance. La date de rédaction, les actions qui sont décrites dans le livre d'Esther se déroulent entre le premier et le deuxième retour des Juifs de l'exil. J'ai mentionné qu'il y avait eu comme des vagues du retour de l'exil tout à l'heure. Donc, ça se passe comme entre les deux vagues, entre la première et la deuxième vague du retour de l'exil. Donc, ça le dit au temps d'Assuérus, qui a régné après Darius et juste avant Artaxerxès. Donc, un roi qui s'insère entre Darius et Artaxerxès, c'est Assuérus. Et c'est dans la période de 483-473 avant Jésus. Donc, on est un petit peu dans la première moitié du 5e siècle avant Jésus. Donc, on arrive dans la structure du livre. On voit vraiment, le livre d'Esther, c'est une histoire. On voit que Esther va être établie comme reine à Suse, en Esther 1 et 2. On voit qu'il y a un certain agent du roi qui s'appelle Aman qui va faire un complot. Puis le complot, c'est dire tous ceux qui ne se soumettent pas à ce que le roi décrète, on va le tuer. On va les tuer. Et puis, dans le fond, ce qu'il y avait comme idée, c'est dire on va tuer les Juifs. Et puis, le roi donne son accord à ça, c'est évident. S'il y a personne qui veut, s'il y a quelqu'un qui ne se soumet pas au roi, on va le tuer. Et puis, à travers ça, Dieu va susciter Esther et puis Mardoché, son oncle, pour venir faire changer un peu ce décret-là qui a été fait. Et le décret ne va pas être modifié. Il va y avoir un nouveau décret. Le roi dit, je ne peux pas enlever ce décret-là que j'ai dit. Il faut que les gens se soumettent à moi. Mais si jamais il y en a qui veulent s'attaquer aux Juifs, les Juifs vont avoir le droit de se défendre. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que finalement, il n'y a personne qui attaque les Juifs et que les Juifs vont prospérer à cette époque-là. Donc, à la fin, on voit la victoire que Mardoché va avoir et puis la célébration des Juifs du moment où moment où Dieu les protège. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte, puis là, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais en allant lire, si vous avez un peu de temps cette semaine, puis vous avez l'occasion d'aller lire Esther, remarquez toutes les tournures d'événements que tu dis, c'est pas le hasard, ça. C'est Dieu qui est en train d'agir. Dieu agit d'une manière spéciale. Il y a une rébellion de la reine Vashti qui fait en sorte que Esther est choisie comme reine. Et tous les détails de l'histoire montrent que Dieu est souverain. Et c'est ce qu'on... C'est sur cette note-là que je veux terminer. On a un Dieu qui est souverain. Ce qu'on a vu ensemble dans cette première partie du cours, c'est l'histoire de la période de l'Ancien Testament qui se passe, entre autres, depuis la création, mais entre autres avec l'appel d'Abraham, environ 2200 ans avant Jésus, jusqu'à la période de silence de 400 avant Jésus. Mais à travers tout ça, Dieu est souverain. Même si son peuple ne marche pas avec lui, Dieu demeure souverain. C'est lui qui règne. Et Dieu va être souverain, il va être près de son peuple quand son peuple marche avec lui. Et s'il y a des leçons qu'on veut retirer de ça, c'est que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Même si le peuple était dans la désolation pendant un certain temps, le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur a apporté des moments où il a mis à cœur à des rois. Et on voit le proverbe que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Dieu intervient et Dieu permet qu'Israël soit restauré. Mais tout ça pointe vers une restauration finale, vers Jésus-Christ. Et c'est ce pourquoi on veut se réjouir. C'est que même si, à travers des hommes, Dieu a béni, Dieu nous a pleinement bénis à travers son Fils Jésus qui est venu sur la terre pour venir nous restaurer. Et pas seulement restaurer des murs, pas seulement restaurer un temple, mais plutôt restaurer nos cœurs, transformer nos cœurs, faire de nous, à travers cette nouvelle alliance-là, des nouvelles créatures. Nouvelles créatures qui maintenant sont le temple du Saint-Esprit, qui peuvent marcher avec le Seigneur, qui peuvent adorer Dieu en esprit, en vérité, qui peuvent le célébrer la gloire de Jésus-Christ. Et on voit quand même, lorsqu'on regarde dans l'histoire d'Israël, que même si notre cœur est transformé, on a encore cette tendance, cette nature pécheresse-là, cette chair-là qui bat, avec laquelle on combat. Mais on peut faire confiance à Dieu puis par son esprit pour continuer de grandir, ressembler à Jésus-Christ et garder les yeux fixés sur cette espérance finale qu'un jour Dieu va venir nous délivrer. Il va y avoir une restauration totale de toute la création et on va pouvoir venir devant Dieu pour l'adorer pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. On a vu une partie du plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, on le sait, s'est accompli en Jésus-Christ et va s'accomplir. Jésus a promis qu'il allait revenir et qu'il allait restaurer toutes choses et c'est vers ça qu'on veut regarder. L'Ancien Testament nous montre notre cœur. La loi nous montre notre cœur. Mais pour qu'on puisse se tourner vers Jésus-Christ, aller à lui puis attendre son retour. Et j'espère que cette première partie-là vous a édifié, vous a permis de mieux comprendre certaines parties de l'Ancien Testament. Le cours va continuer. À la prochaine session, on va voir les livres de poétique et prophétique. Et puis, on va pouvoir mieux voir le cœur de Dieu à travers les prophètes et à travers les cœurs d'adorateurs à travers les psaumes. Donc, j'invite à continuer, à venir, à nous rejoindre en février pour qu'on puisse continuer ce cours-là. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce et te dire merci pour ton amour envers nous. On veut te dire merci parce que ton plan est parfait. Et même, Seigneur, si parfois on voit dans l'histoire que dans l'histoire, tu as été fidèle, tu as été fidèle envers ton peuple, des fois, on a des doutes. On peut vivre encore aujourd'hui des doutes sur certaines situations que tu vas permettre dans nos vies. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs ce matin. Tu sais exactement ce que nous vivons. Puis je suis convaincu que les gens qui sont ici ce matin vont vivre certaines difficultés. Puis même peut-être remettre en question, Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Et même si parfois, Seigneur, tu sembles loin, on sait que par ton esprit, tu es avec nous. Aide-nous, Seigneur, pas à douter de toi, mais à faire confiance et à savoir que tu es présent, à s'appuyer sur tes promesses. Tu nous l'as dit, Seigneur, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu habites en nous par ton esprit. Alors, Seigneur, lorsqu'il vient des moments de doute, aide-nous, Seigneur, à se rappeler tout ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ et qu'on puisse se dire, non, je suis un enfant de Dieu. Puis les doutes qui viennent, Seigneur, ne viennent pas de toi, mais tu veux nous donner l'assurance qu'on t'appartient, que tu es avec nous, puis qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi, à rester attachés à toi en toutes choses, à apprendre de ces bons et de ces mauvais exemples dans l'Ancien Testament pour qu'on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs, mais imiter les bons, ceux qui ont marché avec toi, puis surtout imiter notre Seigneur Jésus, pour qu'on puisse être trouvés fidèles à la fin, lorsque nous serons avec toi dans ta présence. Continue de bénir cette matinée, Seigneur, et c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche.